Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce jour que tu nous donnes. Père, nous ne voulons pas venir de façon mécanique, parce que c'est dimanche, mais nous voulons t'adorer. Père, comme Gaël disait, tu connais nos faiblesses, et on te prie, s'il te plaît, que ton Saint-Esprit nous aide. Tu es puissant, tu as toute la force, tu peux disposer nos cœurs, nos intelligences, pour être concentré, pour écouter ta parole et surtout pour que cette parole parle à nos cœurs. Mon Père, je te supplie que, au-delà de mes faiblesses, de mon incapacité à dire clairement ta parole, que chacun lui-même voit dans ta parole la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus à travers sa mort. Père, bénis-nous, s'il te plaît. Père, on te prie au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Donc, je vais lire dans Marc 15, verset 42 à 47. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté le linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala, Marie mère de José, regardait où on le mettait. C'est la parole de Dieu. Donc là, nous sommes dans la période de l'année où on va célébrer Pâques, donc dimanche prochain. Mais avant ça, Pâques, c'est l'événement, l'un des événements le plus important de l'histoire de l'humanité, la résurrection de Jésus. Mais on en parlera dimanche prochain. Et avant ça, pour parler, il faut parler de ce qui a précédé, donc parler de la mort de Jésus. Comme Gaël l'évoquait la semaine passée, dans le symbole des apôtres ou le credo, c'est-à-dire la confession de foi, on dit « Je crois en Dieu le Père, je crois en Jésus, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert, sous Ponce Pilate, il a été crucifié, comme on l'a vu la semaine passée. Les déclarations d'après, c'est « Il est mort, il a été enseveli. » C'est important pour notre foi de s'arrêter sur le fait qu'il est mort. La Bible s'arrête sur le fait que Jésus est mort. Et donc aujourd'hui, c'est ça que nous allons voir. Et le titre de ce message, c'est « Jésus est vraiment mort ». Souvent, on peut parler de la mort de façon conceptuelle. Et on sait que c'est grave. Mais je ne sais pas si vous avez déjà perdu un être proche. Donc la famille, un ami, là, c'est complètement différent de visualiser quelqu'un qui est mort. Visualiser un cadavre, par exemple, de quelqu'un que vous connaissiez. Et je crois que c'est ce que Marc, dans son récit, veut nous faire voir. Le Fils de Dieu a vraiment été et vraiment mort. À un moment, Jésus, qui guérissait les malades, était un cadavre pendu sur la croix. Donc, on verra le texte en trois parties qui découlent naturellement du texte. D'abord, Jésus est vraiment mort. Puis, Jésus a été enseveli par Joseph d'Arimathée. Et puis, Jésus qui est pleuré par les femmes qui étaient ses amis et ses disciples. Donc, Jésus est vraiment mort. Dans les versets 44 et 45, je lis, « Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. » Une des choses qui faisait la cruauté de la crucifixion, c'était que c'était une mort lente. En fait, des personnes crucifiées mouraient notamment d'asphyxie, parce que les bras tendus, ils étaient complètement suspendus à la croix et ils se tenaient que avec les pieds qui étaient aussi cloués. Donc ils devaient pousser sur leurs pieds pour respirer. Et ça pouvait durer, on dit les gens crucifiés pouvaient durer 3 jours. Jusqu'à 3 jours. Et les Romains faisaient ça pour montrer l'exemple parce que c'était les pires criminels. Ils voulaient donner un exemple. On les laissait là sur la place publique pour donner un exemple à tout le monde. Or Jésus a passé, donc quand on voit Marc, si vous avez devant vos yeux, Marc nous dit que Jésus a été crucifié à la troisième, donc ça correspond à 9h, parce qu'on comptait à partir de 6h. Et on dit qu'il a expiré à la 9e heure, donc à 15h. Donc il a été crucifié au bout de 6h. Et là on dit que c'est le soir, peut-être vers 18h. On vient dire, Joseph d'Arimathée vient demander le corps à Pilate. Et Joseph s'étonne, parce qu'en général les gens duraient plus longtemps. Et donc, pour s'assurer que Jésus est vraiment mort, il vérifie avec le centenier. Alors, le centenier, c'était le chef des soldats romains qui exécutaient les criminels. Donc, lui, il avait la charge de s'assurer que le processus de punition des criminels était bien exécuté. Si quelqu'un était condamné à mort, c'est le centenier qui était responsable de s'assurer que sa sanction était exécutée. Et s'il ne pouvait pas être corrompu parce qu'il y avait d'autres soldats, et même s'il y arrivait, si il laissait partir un criminel, ça allait lui coûter sa propre vie. Donc c'est improbable, c'est impossible que Jésus ne soit pas mort à la croix. Et puis, ce texte ne mentionne pas, mais on voit dans l'évangile de Jean que Marie, la mère de Jésus, était au pied de la croix quand Jésus était crucifié. Et puis il y a d'autres disciples, il y avait aussi Jean, mais ici on nous dit qu'il y avait Marie de Magdala, Marie, une autre Marie et Salomé qu'on a vu la dernière fois. C'est des femmes qui avaient probablement passé beaucoup de temps, qui étaient avec Jésus régulièrement. Donc Jésus est vraiment mort. Ça peut paraître redondant de dire ça, mais aujourd'hui on a beaucoup de personnes qui disent non, Jésus n'était pas mort, parmi nos amis musulmans notamment. Pense que d'une certaine manière, Dieu a changé Jésus à la croix. Mais c'est impossible. Jean est en train de raconter ça. Marc est en train de raconter ça. Il y a des gens qui sont encore vivants. Marie de Magdala est encore là, Salomé est encore là. Elles peuvent témoigner. Non, on a vu Jésus. On a pris son cadavre, on l'a enterré. Et on dit Joseph d'Arimathée. La dernière fois, on citait Simon de Cyrène, le père de Rufus. Dont les gens qui écoutaient le témoignage de Marc l'auraient connu. Et ici, il dit non. D'abord, le centenier a vérifié. Il y avait des témoins oculaires, des gens qui le connaissaient. Sa mère ne peut pas se tromper sur son identité. Et donc, Jésus est vraiment mort. Et c'est impossible qu'il ne soit pas mort à la croix. Et pendant que nous regardons la mort de Jésus, j'ai une question pour nous. Est-ce que nous nous sommes déjà posé la question de pourquoi la mort en général? J'espère que je ne spoile personne ici, mais on va tous mourir un jour. Et pourquoi la mort en général? Pourquoi Dieu a créé des gens talentueux, des gens particuliers, chacun a une diversité, chacun a quelque chose, et tout ça pour mourir après? Je pense que si on est chrétien, on s'est déjà posé la question. Et on trouve la réponse très tôt dans la Bible, dans la Genèse. Et notons ceci, la mort, c'est une malédiction qui vient de Dieu à cause du péché. Donc le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et péché, c'est désobéir au commandement de Dieu. Et cette désobéissance attire la malédiction de Dieu. Et de manière ultime, la mort. Dans Genèse 2, au verset 17, Dieu dit à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça le début de la mort. Adam et Ève, quand ils ont été créés, n'étaient pas faits pour mourir. La mort n'existait pas à la création. Donc la mort vient de la désobéissance à Dieu. Parce que Dieu a maudit à partir de ce moment la race humaine. Ou bien encore au Deutéronome 30, au verset 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et puis plus loin, toujours dans Deutéronome 30, au verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. La vie est associée au bien, la mort est associée au mal. Faire le mal, c'est associé à la mort. La vie est associée à la bénédiction. La bénédiction, c'est quand Dieu te dit du bien ou bien veut te faire du bien. Et le mal est associé à la malédiction. Ça attire. Quand tu fais le mal, ça attire la malédiction de Dieu. Et puis l'apôtre Paul dira dans Romains 5, au verset 12, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. C'est comme ça que la mort a commencé. Les hommes ne sont pas censés mourir à la base. Et donc, si la mort est la conséquence de la malédiction, comment Jésus est mort alors que Jésus n'a jamais péché? Jésus n'a jamais désobéi à la loi de Dieu. Comment ça se fait que lui, il est mort? C'est nous qui pouvons mourir parce qu'on pêche. Comme Gaël disait, on pêche tous les jours. C'est pour ça qu'on demande pardon tous les jours pendant notre culte. Mais Jésus n'avait jamais péché. Et Dieu, dans sa parole, avait donné l'explication plus de 500 ans avant Jésus. Dans Ésaïe 53, versets 5 et 6. Je crois que c'est le verset. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus est mort à cause de nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. On dit à chaque fois que vous péchez, c'est comme si vous travaillez et vous allez avoir votre salaire. Quand vous péchez, vous travaillez pour avoir la punition qui est la mort. Mais quand Jésus mourait, il voulait payer le prix de nos péchés. C'est pour ça que Jésus est mort. Jésus disait quelque part dans l'évangile, je suis venu donner ma vie en rançon pour vous. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle Jésus est mort plus vite que ne mouraient les personnes crucifiées. Parce que quand il souffrait physiquement sur la croix par les clous, dans son âme, il souffrait l'angoisse du châtiment pour chacun de nos péchés. Ensuite, Jésus est enseveli par Joseph d'Arimathée. Au verset 42, le soir étant venu comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Et je lis plus loin au verset 46. Et Joseph, ayant acheté le linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Alors cet événement montre la providence extraordinaire de Dieu. Si on vous disait, nous on croit que la Bible qu'on a devant nous, c'est la parole de Dieu. Et si on vous disait, quelle est la preuve pour vous que cette Bible est la parole de Dieu? Tout le monde peut dire, j'ai un livre et c'est la parole de Dieu. Il y a beaucoup de raisons. Mais je crois qu'une des raisons les plus fortes, c'est les prophéties qui se sont accomplies. Il n'y a pas un livre qui annonce l'avenir et ça s'accomplit à la lettre. On voit dans la Bible plus d'une dizaine de prophéties, plusieurs dizaines de prophéties sur Jésus. On voit notamment qu'il allait être vendu par un de ses amis pour 30 pièces. On voit qu'il allait naître. La Bible annonçait, les prophètes prédisaient la ville où il allait naître, la ville où il allait grandir, etc. etc. Et ça s'est accompli à la lettre. Et ce qu'on vient de lire dans ces passages, si ça ne s'était pas produit, la Bible serait fausse. Vous ne serez pas digne de confiance. Mais le fait que ceci s'est produit prouve que la Bible est la parole de Dieu. Car seul Dieu peut prévoir que les événements se déroulent avec une telle exactitude. Toujours dans Ésaïe 53 qu'on a lu tout à l'heure, au verset 9, il dit « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. » L'événement qui se produit est très improbable. Que Jésus, un criminel, soit enterré ou bien enseveli dans un sépulcre taillé dans une roc. Parce que les sépulcres taillés dans le roc, c'était le tombeau pour les riches. Donc ceux qui voulaient avoir un enterrement prestigieux creusaient leur propre tombeau dans la roche, dans une montagne rocheuse. Et puis on mettait leurs dépouilles dedans et puis on fermait avec une pierre. Ça fait qu'ils pouvaient se décomposer, on pouvait retirer leurs os après, etc. etc. Et c'est comme si on disait quelqu'un est mort parmi les pires criminels à la prison de Fresnes, et puis on l'a enterré au cimetière de Père-Lachaise avec Molière et tout, des grandes figures françaises. C'est très, très, très improbable. Et Jésus avait dit, oui, son fils va mourir comme un criminel, parce qu'il meurt pour les criminels. Mais à partir de là, son humiliation va cesser. Il sera enterré comme un noble qu'il est en réalité. On ne sait pas grand-chose de Joseph d'Arimathée qui est venu enterrer Jésus. Il apparaît dans les quatre évangiles seulement au moment de récupérer la dépouille de Jésus pour l'enterrer. Trois faits marquants sur Joseph. D'abord, on sait que c'était un disciple en secret parce qu'il avait peur des Juifs. Donc Joseph, il était parmi les responsables du Sanhédrin, donc parmi les chefs religieux. Et on dit que c'était un conseil de distinction. Et toute sa vie, il était un disciple un peu lâche. Il n'affichait pas sa foi en Jésus. Parce qu'il avait peur d'être peut-être chassé du Sanhédrin. Parce que c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus. Donc il n'aimait pas Jésus. Et la deuxième chose qu'on sait de lui, c'est que c'était un homme riche. Probablement la tombe qu'il avait creusée dans la roche, c'était pour lui-même, parce que dans un autre évangile, on voit que c'était une tombe neuve. Personne n'avait jamais été enterré dedans. Et donc, c'est ce disciple un peu lâche, un peu peureux, que Dieu va utiliser pour accomplir cette prophétie. Et la troisième chose qu'on lit sur lui, moi, en lisant la description de Joseph, j'ai toujours été marqué par la manière dont on le décrit. Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction qui attendait le royaume de Dieu. Quand je lisais ça, je me dis, s'il fallait définir, s'il fallait mettre un mot sur ma pierre tombale quand je mourrai, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est un gars qui aimait beaucoup le foot, il aimait la politique. Mais pour Joseph, la façon dont on le décrit, conseiller de distinction qui attendait le royaume de Dieu. Je pense que c'est l'une des caractéristiques les plus nobles chez un chrétien. Quelqu'un qui attend le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la réponse à toutes nos soupirs, à tous nos souhaits. C'est dans le royaume de Dieu qu'il n'y aura plus de guerre. Quand on regarde les infos aujourd'hui, on se disait, mais s'il n'y avait plus la guerre. Mais le Seigneur a dit, il y aura les guerres. Vous entendrez les bruits de guerre. Ne soyez pas troublés, il y aura les guerres. Le royaume de Dieu, c'est là où il n'y aura plus de souffrance. C'est là où nous n'aurons plus de péché. Où nos amis n'auront plus de péché. Ça va nous arranger. C'est là où il n'y aura plus de pauvreté, plus de maladies, il n'y aura plus de mort. Et c'est ce que Dieu a promis depuis l'Ancien Testament. Et donc Joseph d'Arimathée attendait le royaume de Dieu. Et certainement, il voyait en Jésus le roi qui allait amener ce royaume. Et Jésus était ce roi. Donc il est probablement dans l'incompréhension la plus totale. Le roi, comment il est mort? Et ses disciples aussi, on voyait les disciples attendaient le royaume de Dieu. À chaque fois, ils disaient, est-ce que c'est là que tu vas faire venir le royaume de Dieu? Et ils disaient tout le temps, on veut régner avec toi. Ils ne s'attendaient pas à cette fin pour le roi. Mais quand Jésus a été crucifié, tous les disciples ont fui. Parce qu'ils se sont dit, c'est pas ce qu'on attendait, on n'attendait pas ça. Mais Joseph d'Arimathée, malgré il avait honte de Jésus toute sa vie, dans les pires moments de Jésus, c'est lui qui est là. Et Jésus, toute sa vie, était entouré des foules, des gens qui venaient parce qu'il allait multiplier les pains, il allait guérir les malades. Mais quand Jésus meurt, il meurt seul. Et le seul qui sera sa famille pour l'enterrer, pour le pleurer, c'est Joseph d'Arimathée, avec les femmes qui l'entourent. Je trouve que ça peut être un encouragement pour nous. Parce que des fois, on est un peu des Joseph d'Arimathée, peut-être qu'on a du mal à assumer notre foi en public. J'oublierai jamais une fois, j'étais en troisième, et quand il n'y avait personne en classe, je suis allé écrire sur le tableau, Jésus vous aime. Et on avait un prof de maths qui était sévère. Il est entré, il a dit, qui a écrit ça? Et j'étais au fond de la classe, et je me cachais, je ne voulais pas que personne ne sache. Et je n'ai pas dit que c'était moi, j'avais trop peur. Et quand je vois Joseph d'Arimathée, ça m'encourage. Dieu n'a pas honte des faibles serviteurs, de ceux qui ont parfois honte. Joseph d'Arimathée a vécu toute la honte, dans la honte de Jésus toute sa vie. Mais au moment où Jésus était dans le pire, il a osé, on dit qu'il a osé se rendre à Pilate pour demander le corps de Jésus. C'est un encouragement pour nous. Enfin, le troisième point qu'on voit dans ce texte, Jésus est pleuré par les disciples, femmes. C'est ce qui est dit au verset 47. Marie de Magdala et Marie, mère de Joses, regardaient où on le mettait. Et puis, on avait mentionné Salomé dans les versets d'avant. Ces trois femmes ne sont jamais mentionnées, à part Marie de Magdala, où on dit que Jésus l'a guérie. On n'entend jamais parler d'elles, nommément, en dehors de l'épisode de l'enterrement du Seigneur. Mais on peut comprendre qu'elles aidaient Jésus tout au long de son ministère. On voit ça notamment quand Jésus ressuscite Lazare. Quand Jésus va chez Lazare, il y a ses deux sœurs qui sont en train de servir. Et moi, je suis aussi marqué par cette description. Tous les disciples de Jésus qui étaient bouillants, on se souvient de Jean et Jacques, qui disaient « On va appeler le feu pour détruire ceux qui ne respectent pas Jésus. » Ou Pierre qui disait « Je vais mourir avec toi. » Eux tous, ils ont fui à ce moment-là. Et les seuls qui sont avec Jésus, avec Joseph d'Arimathée qui l'a enseveli, c'est les femmes, les disciples qui l'entouraient. Je pense souvent l'Église est critiquée, comme on l'a vu il y a quelques semaines, quand Gaël parlait du rôle de la femme et de l'homme dans le mariage. La Bible dit clairement, femme, soumettez-vous à vos maris. Ou bien dans d'autres passages, on voit que les femmes ne sont pas désignées pour endosser la responsabilité de pasteur dans l'Église, etc. Et souvent l'Église est critiquée sur le fait que on considère que l'homme est supérieur à la femme ou que l'Église, que c'est une définition un peu misogyne. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois que Jésus, ce qui a créé, savait que les femmes avaient ce caractère-là. Et récemment, il y a une dame qui nous a sollicité avec quelques amis parce que son fils a été mis en prison pour 8 ans. Et je trouve qu'elle est tenace, elle est fidèle, elle continue à prier pour son fils. Et ça fait déjà 1 an et 6 mois qui sont passés et on se dit, waouh. Et elle nous a supplié qu'on aille rendre visite régulièrement à son fils. Et donc avec les amis, quand on va souvent à la prison, ce qu'on se rend compte, c'est la majorité des gens qui sont là, ce sont les femmes. Et frères et sœurs, occupez-vous bien de vos sœurs. Peut-être que dans les moments de galère, c'est elles qui seront à vos côtés. Et souvent, je vois, souvent on dit l'Église, c'est comme le corps, c'est comme un corps. J'ai l'impression que les femmes sont souvent comme la colonne vertébrale. C'est elles qui tiennent quand personne n'y arrive. Donc c'est un fait notoire que Jésus est pleuré seulement par ses disciples femmes, est entouré de ses disciples femmes dans ces derniers moments, et de ses disciples et ses amis. Alors, quelques implications pour ce texte, j'ai noté 3. D'abord, ce texte, on peut se rappeler à travers ce texte que la mort, c'est une malédiction pour l'humanité. Ce n'est pas le plan initial. La mort, c'est le résultat du péché, de notre désobéissance. Et Jésus est venu sur terre précisément pour porter notre malédiction, pour prendre notre mort. C'est vrai qu'on va mourir physiquement. Et Jésus disait, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il vivra. Je crois qu'on quitte. Et l'apôtre Paul disait, si on quitte notre corps, on sera avec lui dans les cieux. Il y a un autre évangile où Jésus parle à un des criminels qui est avec lui sur la croix, parce qu'il a cru dans ces derniers moments. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans la gloire. Et Jésus lui dit, ce soir même, on sera ensemble dans le royaume des cieux. La Bible a ce qu'on appelle le séjour des morts. Normalement, quand tu meurs, tu vas d'un endroit qui s'appelle le séjour des morts. Mais celui qui croit en Jésus n'ira jamais dans le séjour des morts. Jésus est venu enlever notre malédiction. Ça fait que si on meurt avec la foi en Jésus, on va vivre dans le royaume des cieux. Immédiatement. Si je meurs aujourd'hui, je serai aujourd'hui dans le royaume des cieux. Et c'est le cas pour tous ceux qui ont cru en Jésus. Donc Jésus, je ne serai pas au royaume des cieux parce que je suis quelqu'un de bien. Mais parce que Jésus a pris ma mort. Jésus a pris ma malédiction. Donc Jésus est venu porter la malédiction, c'est pour ça qu'il est mort. Soit il prend ta malédiction, soit ça va rester avec toi. C'est le choix que Jésus nous donne. Avoir la foi en Jésus, c'est dire, je te fais confiance pour me sauver de la mort. Qu'est-ce que vous choisissez? Le choix me paraît évident. Je relis dans Ésaïe 53, versets 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, il prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira les regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, c'est-à-dire les rendra justes devant Dieu. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ce texte a été écrit plus de 500 ans avant que Jésus n'arrive, qui décrivait déjà que lui-même va se donner en sacrifice pour le péché et porter nos péchés et intercéder pour nous, pour que nous soyons justes devant Dieu. Donc si ce n'est pas votre cas, considérez que Jésus est mort pour vous. Mettez votre foi en Jésus, s'il vous plaît. Une deuxième implication, c'est un encouragement pour tous les Joseph d'Arimathée qui se trouvent ici, comme moi. Si vous avez failli, si vous avez eu honte de Jésus, ou si vous n'avez pas endossé votre rôle de disciple, et ça peut arriver, Les hommes peuvent rejeter, enfin souvent quand on a quelqu'un qui est un peu défectueux parmi nos amis, on peut prendre des distances. Mais Jésus est persévérant avec nous. Et si vous n'avez, s'il y a des moments où vous n'avez pas été entré à la hauteur de ce que vous deviez être en tant que disciple, si vous avez encore une marche chancelante aujourd'hui, persévérez même dans la difficulté. Le Seigneur peut faire de grandes choses encore avec vous. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui disait, il n'y a pas de grand serviteur de Dieu. Il n'y a pas de grand serviteur de Dieu. Il n'y a que des petits serviteurs au service d'un grand Dieu. Troisième implication pour les fidèles, un peu comme les femmes, Marie de Magdala, Salomé, ça devrait être notre modèle. On se souvient, je ne vais pas spoiler hein, ce qui va se passer après, mais Jésus va ressusciter. Et à qui est-ce qu'il va apparaître en premier ? Il va apparaître à ces femmes-là. Elles ont fait l'honneur d'accompagner le Seigneur dans ces moments de grande humiliation. Quand il était nu sur la croix, elles étaient là, elles lui ont fait l'honneur. Et Jésus leur a fait l'honneur de voir en premier le Seigneur ressuscité. Et c'est elles qui sont allées annoncer aux apôtres. Le Seigneur disait souvent, le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde, c'est la plus petite des graines. Ça veut dire quand Dieu commence son œuvre, souvent ça ressemble à rien. Mais c'est dans ces moments que Dieu nous attend. Est-ce que quand il ressemble à rien, est-ce qu'on va lui être fidèle ? Cette graine de moutarde un jour va devenir un grand arbre. Dire le royaume de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Église qui ressemble à rien. Un jour, Jésus va révéler la gloire, il va révéler sa gloire. Comme l'apôtre Paul disait, quand Christ paraîtra, notre vraie vie, on va commencer aussi avec lui. Je nous laisse avec ces paroles. Je prie pour nous. Notre Dieu et notre Père, merci pour le Seigneur Jésus. Dieu, nous ne comprendrons probablement jamais sur cette terre et dans le ciel, je ne sais pas si nous comprendrons le sens, le poids de cette phrase « Jésus est mort pour les péchés ». Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Mais merci parce que nous, plusieurs ici, nous avons expérimenté ton pardon. Nous avons expérimenté ta bonté. Merci parce que tu ne veux pas que le pécheur meure, et tu veux qu'il se repente et qu'il vive. Tu as tellement aimé le pécheur que tu as donné la vie de ton propre fils pour que nous ayons la vie. Seigneur, nous reçois notre reconnaissance, s'il te plaît. Et notre Dieu, nous voulons te supplier de nous garder reconnaissants, de nous garder avec la vision de Jésus mort pour nos péchés, et d'être reconnaissants tous les jours de nos vies. Et mon Père, nous voulons te prier pour ceux qui entendent et qui n'ont pas encore cette foi qui sauve, qui n'ont pas encore cet abandon total dans l'œuvre de Jésus pour le pardon de leurs péchés. Père, s'il te plaît, que ton Saint-Esprit illumine les cœurs, que ton Saint-Esprit bénisse, attire à toi, et que tu sois glorifié par le salut, par le pardon des péchés. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.